Bonjour, ici Louis pour Erdiwa. Aujourd'hui, avec Luc Boussard, éditeur, moine zen et accessoirement président de Erdiwa, nous avons le plaisir d'accueillir le moine zen et écrivain d'origine américaine, Philippe Coupet. Nous essaierons de ne pas nous lancer dans de vastes considérations sur les mérites du bouddhisme, comparés à d'autres pratiques, ni à des conseils pratiques pour parvenir à l'éveil. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment concilier pratique spirituelle et engagement social. Car c'est un euphémisme de dire que le monde ne va pas très bien. Ces dernières semaines en France ont été marquées par des grands mouvements sociaux. Donc je voudrais savoir comment un moine zen se situe devant cette problématique des mouvements sociaux. Bonjour.
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 Alors comment te situes-tu par rapport à ces mouvements sociaux ?
Je ne me situe pas du tout. Ah, je ne fais pas de séparation. Alors il n'y a pas besoin de que je me situe à quoi que ce soit. Ça c'est quand tu parles de social, la situation sociale. C'est un point de vue qui n'est pas le mien. Ah, qu'on doit faire quelque chose contre quelque chose. C'est certainement nécessaire qu'ils le font, chacun fait son travail. Mais pour moi, ce n'est pas une chose contre un autre. Je suis pour le social, totalement. Je suis le social. Mais je ne suis pas dans les démonstrations du social. Et ce n'est pas mon travail. Et c'est pas ça que... Moi, je peux pas aider le terre entière, c'est ça qui m'intéresse. Je ne peux pas l'aider en faisant des démonstrations. Je fais autre chose qui aide énormément, mais dans le monde invisible, mais c'est social, à la fin. Pour moi, il n'y a pas de différence.
Tu serais plus dans le paradigme, au lieu de changer le monde, tu essaies de te changer.
Voilà, en changeant moi, tout le monde change. Tout le monde change, tout le temps. Dans le sens de s'ils sont avec quelqu'un qui se change positivement, ils changent positivement, si on peut dire positivement. Si c'est quelqu'un qui devient mauvais, et les autres vont devenir mauvais. Et voilà un énorme travail social.
Il y a beaucoup de gens qui mettent des doutes sur les bouddhistes qui seraient enfermés dans des monastères et on se demande à quoi ils servent.
Et puis moi aussi. Qu'est-ce qui sert ? Qu'est-ce qui fait un moine là-dedans ? Et c'est parce qu'il avait besoin d'un toit et de bouffer quelque part. La plupart, hein, c'est pas des fils de riches, c'est des fils de paysans. Et c'était toujours comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils font là-dedans, hein? S'ils font zazen, la méditation, au-delà de la méditation, ok, mais c'est pas vraiment ça. Ils font plein de cérémonies, ils se font loger et nourrir.
Ça veut dire que toi, tu es impliqué dans la vie sociale, quoi. Tu n'es pas...
Oui, la différence, c'est qu'eux, ils créent le social. Parce qu'ils vont en dehors du social. Mais il n'y a pas un en dehors du social. Moi, je ne vais pas dans un monastère. Ça ne m'intéresse aucunement. Alors, je suis où? Je suis dans le monastère, si je pratique, mais je suis toujours dans le social.
Il y a des gens qui trouvent que la colère, de temps en temps, est légitime. Par exemple, nous sommes en face d'un système injuste.
Oui.
Et qu'il est normal d'éprouver de la colère contre un système qui oppresse l'homme. Or, dans le bouddhisme, la colère, c'est quelque chose qui nous empêche de pacifier l'esprit.
Je viens de dire, je suis dans le social, je me mets en colère. Et j'espère, et les autres, ils se mettent en colère. Et quand j'écoute la radio, c'est ceux qui se mettent en colère. Mais comment se mettre en colère? Il faut savoir comment. Alors, le zen, c'est aussi la pratique de votre comportement, naturellement et automatiquement. Et on se met en colère sans crier. Mais la colère, on le sent. Ceux qui crient, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais ceux qui tapent la table et qui parlent de leur tripe, eh bien, en colère, eh bien, très bien.
Donc la colère est une force motrice, alors?
Oui, oui, oui. La colère, c'est nécessaire. Parce qu'il y a des raisons d'avoir une colère. Tout ça, c'est passé, ce politique-là, c'est du pragmatisme. C'est ça leur direction. Et bien sûr qu'ils se fâchent, bien sûr.
Oui, mais justement, peut-être que cette colère qui obscurcit le jugement, si on l'enlevait, peut-être qu'on pourrait plus facilement s'asseoir à la table des négociations entre plusieurs parties. Ce qui est un problème en France, c'est qu'on ne sait pas négocier. Il y a des gens qui sont radicalement contre d'autres gens et ils ne peuvent plus se parler. Donc si on arrêtait d'être en colère, peut-être pourrait-on parler.
Oui, mais c'est encore autre chose, ça. Moi, je parlais de la colère comme les trains qui emballaient tous ces déchets atomiques. Ils se mettent en colère. Ça, c'est une colère. Mais quand tu es à table ronde, Ah non, alors là, il faut savoir avoir une colère qui est là, qui se sent, mais qui n'est pas un voix agressif du tout, du tout. Et toujours se mettre en question quand on prend une position, de toujours savoir l'autre position et de le respecter. Si on ne respecte pas l'autre, on ne respecte pas soi-même. Alors, celui-là est de l'extrême droite. C'est intéressant de les écouter. Ils disent des choses très intéressantes. L'extrême gauche aussi. Et prendre eux en considération quand ils vous parlent. Soyez eux. Comme ça, il n'y a pas de dualité.
Justement, dans le zen, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux.
Oui.
Il n'y a pas de choix.
C'est ça.
Comment se situer sur l'échiquier politique? Comment avoir une opinion? D'ailleurs, justement, y a-t-il à avoir des opinions sur ce qui se passe?
C'est pas une question d'opinion. C'est une question de vision. Notre vision qui vient à travers nous et notre méditation, si on peut dire. Et ça donne une vision, une opinion. C'est juste un côté encore contre un autre. Pour moi, ce n'est pas une question d'opinion. Les questions d'opinion, c'est basé sur quoi? C'est basé sur comment. Je crois qu'une opinion, c'est à penser, à avancer les choses. Une opinion, c'est quoi une opinion?
Ça vient peut-être de mon éducation, ça vient peut-être de ce
Non,
que j'ai lu, ça vient peut-être
ok.
de ce que j'ai réfléchi. Mais effectivement, je ne sais pas d'où elle vient, cette opinion.
Ok, mais le but d'une opinion dans un groupement de personnes politiques ou autres, c'est faire des projets. Et si c'est ça, c'est pour moi pas important de faire des projets. Ça, c'est la politique d'un côté ou d'un autre. C'est pas ça pour moi. Faire des projets, quoi, pour dans 5 ans, 10 ans, mais c'est pas intéressant. C'est avoir une vision. C'est autre chose. Avoir une vision de le monde. De le monde et d'autrui. Mais vous êtes obligé de jouer le jeu d'opinion. Mais sachez que c'est quand on demande votre opinion dans une situation comme ça. Parlez opinion. Mais sachez bien que ça ne va pas loin, l'opinion, et ça ne va pas loin non plus, le politique qui se base sur des projets dans le futur. Ça ne va pas loin, ça. Oui, on peut finalement créer, on fait un projet de créer une bombe atomique, on arrive, oui. Quels projets sont vraiment bons? Peut-être il y en a eu, mais.
Tout projet complexe qui va dans le temps oublie l'instant présent, c'est ça que je crois.
C'est une certaine façon de le dire. Je me méfie des fois de cette expression, ici et maintenant, parce que tout le monde s'en sert maintenant. Et c'est quelque chose que je trouve. À vraiment affaiblir le concept ici maintenant. Mais je suis d'accord avec comment vous avez fait le résumé de ce que j'ai dit.
Je te remercie d'avoir amené ce distinguo énorme entre effectivement une vision à long terme, une vraie vision intégrant sans
Oui.
doute l'être humain au centre des
Oui.
préoccupations, plutôt que d'avoir des petits projets
Oui.
colmatants, mettant des
Oui.
rustines sur
Oui.
des trucs a posteriori sans vraiment traiter le problème à bras-le-corps. C'est évident. J'aimerais bien revenir sur l'histoire du choix quand même, parce que dans le bouddhisme zen en particulier, il n'y a pas de juste et de faux, mais c'est quand même un peu difficile à vivre quand même, parce que il y a tous les jours, j'ai des choix à faire, tous les jours, je dois choisir si ça est bon ou ça est mauvais. Si j'accepte tout, une paralysie peut me saisir, parce que tout est vrai et réciproquement, et je ne sais pas comment me situer en fait.
Dans vos travails, vous avez des choix sur des détails, sur des petits phénomènes. Il faut le faire. Hein, le travail, c'est le travail. Ah, mais profondément, on n'a pas de choix. Profondément. Et c'est ça à savoir aussi, qui nous libère de l'idée que je dois y aller à gauche ou à droite, ou au milieu. Ce n'est pas une question, comme tu viens de dire, de ni l'un ni l'autre, mais le choix. On n'a pas le choix. Pour le dire différemment, quand on ne pense plus avec le frontal, on pense avec l'hypothalamus, on pense avec les tripes, on pense avec la hara, inconsciemment bien sûr, Et puisqu'on est libéré de tout ce ces mots dans la tête, on réalise qu'il n'y a pas de choix parce que c'est le corps qui t'amène. Et il va t'amener dans la bonne direction si tu n'entres pas dans les choix, sur le niveau profond. Sur l'autre niveau, oui, ok, on choisit. Et est-ce que vraiment on choisit, même sur le petit niveau? Je veux un café. Eh bien, est-ce que j'ai vraiment choisi que je veux un café? Est-ce que j'ai choisi vraiment? Je ne pense que même pas. Je pense que même pas. Et le résultat, c'est que quand on est dans des situations sociales, on fonctionne naturellement, automatiquement, sans trop réfléchir. Un peu, quand même.
Mais dans la vie de tous les jours, dans ma vie à moi, celle qui me concerne, je peux faire des choix de temps en temps entre ce que je sais être bon et pas bon. Je prends une référence avec une penseuse chrétienne, Simone Veil, la première, qui était une juive qui est morte dans un camp de concentration.
Elle est morte.
C'est pas Simone Veil qui a fait la loi, c'est une autre Simone Veil qui est morte dans un camp de concentration.
D'accord.
Et donc, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « La pesanteur et la grâce » et elle décrit une notion très décriée de nos jours qu'on appelle le péché. Et elle dit que le péché, c'est la compensation. C'est-à-dire que voilà, je suis tendu, je suis énervé, au lieu de lutter, je vais compenser. Je vais prendre du chocolat ou je vais prendre deux petits verres de vin et puis je vais compenser. Donc, est-ce que je suis ma pente, je compense à chaque fois que je suis tendu, ou est-ce que je lutte un petit peu en me disant « oui, je sais que c'est facile, mais ce n'est pas ça qui va régler le problème ».
Pour l'homme évolué ou le sage, c'est du pipeau tout ça. Hein? C'est pas « oh, je vais manger du chocolat maintenant pour que je me soulage hein, d'un problème, ou en whisky, disons, pour me soulager ah. ». Non, c'est beaucoup mieux que ça.
Alors,
c'est pas déchirer, pécher, et on appelle ça un péché quand on va boire le whisky. Mais c'est quoi le péché hein, on peut penser là-dedans. Mais parlons de le fait que, encore une fois, on boit le whisky, on est conscient qu'on boit le whisky, on va pas trop boire de whisky. Pourquoi? Parce que c'est... être à quatre pattes, c'est bien stupide. C'est bien stupide. Et on boit, et on n'a même pas choisi. On n'a pas choisi. Alors, tu ne devais pas être en aucune dualité. Et quand tu dis, mais je comprends que tu dis, je dois choisir, je dois faire quelque chose ou je ne suis pas d'accord. Ok, mais c'est quoi ça? C'est peut-être parce que tu travailles sur la radio et tu dois prendre en considération ce que c'est qu'en radio et le public. C'est ça, par exemple. Alors, tu ne peux pas faire ce que tu as vraiment envie de faire parce que tu dois choisir avec le public, c'est ça?
Non, si je suis ma pente, si je ne choisis pas et si je me laisse aller, je veux dire, si je ne lutte pas contre certaines tendances, je peux avoir des pratiques autodestructrices qui ne m'amènent pas à être au meilleur de moi-même. Donc, je m'affaiblis et donc je n'ai plus l'esprit clair et donc ça va à volo. Voilà,
c'est oui, bien sûr, mais si on va passer... ses désirs personnels, c'est-à-dire c'est, par exemple ses plaisirs, non, c'est nul ça. C'est pas ça de quoi je parle. Je parle de le corps qui amène l'esprit. Toi, tu parles de l'esprit qui amène le corps. C'est pas ça l'homme évolué, disons. L'homme spirituel, oui, spirituel. L'homme sage. Hein? Ah, il n'a pas ces problèmes-là. Il boit quand il boit. Il n'a pas choisi. C'est pas ce niveau-là où on doit ou on ne doit pas. On doit ou on ne doit pas, ça dépend quoi de ta religion, de ta culture. Ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est tout ça, c'est des préfabrications. Tout. Ma culture, ma religion, mes préceptes. C'est préfabriqué, c'est imaginé.
Enfin, je ne sais pas, mais par exemple, dans une autre tradition spirituelle, Vipassana, on dit que quelqu'un, il n'est pas accro à quelque chose, il n'est pas accro à la drogue, il n'est pas accro au whisky, il est accro à la sensation que cela procure. Et s'il joue le jeu des sensations, il va y revenir et ce sera pire que lui. Alors évidemment, c'est le corps qui va en vouloir, parce qu'il va avoir sa dose, il est accro aux sensations. Il y a malgré tout un... peut-être éventuellement un combat pour se libérer de cette tyrannie du corps. peut-être.
C'est pas mal, c'est intéressant, c'est vrai. Mais quand même, si on vend le corps comme un tire-bouchon, hein, tout foutu, quoi, et bien sûr, on ne peut pas suivre ça. Il faut d'abord qu'on pratique zen, hein, ou vipassana, hein, et qu'on sait s'asseoir, et on sait tenir la colonne vertébrale naturellement, et pas comme je vois dans le métro à Paris, mais les gens sont tous comme des tire ou des, ils ont leur nuque en tire-bouchon, ils ont leur dos voûté, et on ne suit pas ça. On suit le fait qu'il essaie de se mettre bien, naturellement, qui a la tête sur ses épaules et pas qui tombe parce qu'il a passé 20 ans ou 30 ans à lire des bouquins ou à coudre des habits, ou parce que sa tête est trop lourde, trop pleine de pensées. Penser, c'est très lourd. Et ça fait descendre la tête, ouah, en bas. Eh bien, tu fais les. Ouais, si tu ne suis pas ça. Tu suis le corps qui est le corps, le vrai corps humain. Le vrai corps humain est droit, la tête en haut, les pieds en bas, et les pieds en avance avec les pieds, et pas avec la tête. Et c'est ça. Et n'oublie pas, quand tu parles de vipassana, que je ne connais pas, ou disons d'autres méditations, et tu parles du zen, de méditation zen, peut-être il y a une différence d'approche dès le départ. Et je dis ça pour dire que je ne critique pas du tout le principe moraux, si j'ai bien compris, du vipassana. Nous, c'est notre morale. Le zen, et le zazen, comme nous l'avons reçu, moi et Luc, de Maître Deshimaru, pendant toute sa vie ici, en France, c'est la dernière étape, c'est la fin. Nous, on commence en haut de la montagne, le pic de la montagne. Vrai ou pas, je n'entre pas là-dedans. Eh oui, monsieur, ceux qui écoutent, il vient de tirer son œil. Vous n'êtes pas d'accord. Non, je dis ce qu'on dit. Je
D'accord.
dis ce qu'on dit.
N'est-ce pas de l'arrogance de dire que vous êtes au sommet de la montagne et que vous êtes au bout du chemin? Qui
Alors,
êtes-vous pour dire cela? Je ne suis pas sûr de le.
Moi, je suis quelqu'un qui pratique depuis 30 ou 40 ans. J'enseigne, j'ai des disciples un peu partout. Et je suis moine et je dois m'exprimer. Ce n'est pas qui je suis moine. Je ne suis pas Philippe Coupé. Ça, oui. Qui suis-je? Quelle arrogance. Mais je parle en tant que moine. Et qu'on dit que c'est la fin. Et pourquoi c'est la fin? Il n'y a pas de. On ne suit pas les préceptes. Hein? Toi, tu suis les préceptes. Tu essayes. Ok, tu essayes de suivre les préceptes. Nous, on n'essaie pas de suivre les préceptes, parce qu'on les a tous suivis, et on les suit tous quand on est en zazen. Et alors c'est pour ça qu'on dit c'est la fin de la montagne, c'est le haut de la montagne. On n'avance pas comme sur une échelle où on met les préceptes en ordre, et on choisit le bon contre le mauvais, et on ne fait pas ça, parce qu'on a déjà fait.
On retrouve ça dans Vipassana, dans les sensations. Ce n'est pas comme dans le zen, la posture qui chasse l'imposture. C'est le fait de s'asseoir et de faire circuler son attention le long de son corps et de voir que nous avons deux types de sensations, les agréables et les désagréables. Et on les regarde en toute équanimité, parce que quand Bouddha parle de misère, c'est ma misère personnelle et cette misère qui se traduit par des sensations physiques désagréables. Et en les regardant sans sourciller, on s'en libère. Donc on se libère aussi naturellement, mais ce n'est pas le but, on se libère aussi des addictions. Puisqu'on est capable de regarder ces sensations physiques, ma douleur, parce qu'on n'en a pas parlé dans le zen, je ne sais pas s'il y a un usage de la douleur ou du plaisir, en tout cas on les regarde. Et on n'est pas accro. De même que le zen ne s'attache pas aux pensées, dans Vipassana, c'est au niveau du corps que ça se joue. C'est-à-dire mes sensations, je les regarde et je les laisse passer aussi. Et alors, tout ce qu'on a vécu est inscrit dans notre corps, c'est que ça se libère en fait. Mes traumas qui sont logés dans le corps
Non, mais je peux te poser une question
Oui.
à ce sujet. Comment vous regardez un de les problèmes que tu as soulevés? Qui est en toi que tu t'en débarrasses.
En fait, il ne faut pas s'attacher aux pensées. Le penser, même chose, on laisse passer, hein, n'est-ce pas? Mais on fait circuler son attention de son corps, mon nez, tout partout, etc. Et il ne faut pas s'accrocher non plus. Il y a des douleurs, par exemple au genou, au bas du dos, ça fait très mal. Bon. Alors, on ne recherche pas la douleur non plus, mais quelque part, elle reflue. parce qu'on n'en a pas peur. Il y a aussi les zones blanches, par exemple les zones du bras, et pendant longtemps, il ne se passait rien dans mon bras, c'était une zone blanche. Ouais. Et donc le fait de les regarder sans réagir, on se libère à la fois de l'avidité et de l'aversion, mais c'est du concret, c'est du physique, c'était pas du mental. Alors d'autre part, j'ai pas suivi que Vipassana, moi j'ai même travaillé chez les chrétiens. J'ai pratiqué donc pendant 2 ans l'hindouisme et ils disent à peu près la même chose que vous. Il n'y a pas de question de moralité dans l'hindouisme Advaita, non-dualité. Ouais. Et eux, ils parlent aussi du bout du chemin parce que la question principale c'est qui ? Qui suis-je ? Même qui médite ? Oui. Et donc le zen lui ne t'accroche pas et l'hindouisme Advaita revient à l'origine de la pensée. C'est-à-dire, qui insuffle le monde que je vois en face de moi?
Oui, bon, mais il y a une grande différence. Vous dites là, à la fin, qui souffle la vérité? Bon, évidemment, on sait qui. Oui, dans l'hindouisme, c'est l'atman, non?
Et oui, c'est une zone qui ne bouge pas trop, quoi.
Oui, nous, on n'entre pas là-dedans. Nous, on n'est pas du tout comme l'hindouisme dans ce sens-là. Et ils regardent l'atman. Et puis nous, on ne regarde pas l'atman. Et puis pour revenir à ce que tu disais avant, oui, c'est pas différent. Nous aussi, on se débarrasse de toutes ces choses que tu as mentionnées, mais on ne les sépare pas pour les débarrasser. Il n'y a plus cette étape. Quand je dis étape, je ne veux pas dire qu'on est supérieur à la Vipassana, je ne connais que le Zen. Alors, je ne connais pas la Vipassana, je ne connais pas l'hindouisme, je ne connais pas le christianisme, je ne connais que le Zen. Et ça, évidemment, de ma façon, ne peut pas être autrement. J'essaie de faire, en suivant Maître Deshimans, que ça ne soit pas ma façon, mais la façon. Alors la façon, ce n'est pas l'étape.
Droit au but.
Oui, que ça. Alors, on est là et on a 10 000 choses, 10 000 problèmes. Mais on comprend petit à petit, puisqu'on est forcé à le comprendre, on est en haut et on ne te donne rien comme règle. Seulement commenter dans le dojo sans faire gâchot et s'asseoir. Mais après ça, vous vous démerdez. Mais vous êtes ici, là-bas, et là-haut, en haut. Et il y a un moment que vous comprenez, et ce n'est pas par l'intellect, l'ensemble de toutes choses. Le fait qu'on n'est pas seulement frère, mais on est pareil, on est plus que frère. On est avec toi, Louis, avec toi, Luc, on est plus que frère. Et ça, ça fait que toutes ces choses qu'on parle séparément passent au même moment. Et passent au même moment tout le temps. Et il faut tout le temps, c'est pas une fois. Il faut tout le temps que ça passe. Chaque fois que tu te mets en posture de zazen, tu es débutant. Tu es débutant, sauf si tu es orgueilleux, plein de toi, alors toi, tu es mal barré. Hein. Mais si tu commences, tu as fait 20 ans, 30 ans, ça, je vois, mais tu es débutant. Ah, là, ça c'est la sagesse, peut-être, de haut de la montagne.
Je vous propose maintenant de nous mettre dans le bain d'une séance de zen avec Anna Shiugu, chantée par les moines zen tous les matins lors des séances de méditation.
Strong.
Tout à l'heure, j'ai parlé de cette notion de péché ô combien décrié. Et tu as eu cette expression, oh, ça c'est de la... D'accord ? Et alors, justement, puisque tout est entouré réciproquement, qu'il n'y a pas de juste et de faux, comment as-tu pu justement te mettre dans une position de dire que ça c'est de la... Même l'erreur est juste.
Je suis en train de faire un, ou je ne sais pas quoi, pour l'idée de pécher, que oui. Ça c'est bon et ça c'est pas bon. Ça oui, c'est encore ce qu'on dit au petit peuple pour qu'il suive la machine. Mais c'est quoi le péché? C'est quoi? Ça vient de ta culture. Et de ta culture, tu as un certain péché. Et une autre culture, il a un autre péché. Et lequel des péchés est juste? Et lequel des péchés est faux? Ça veut dire que péché, c'est très superficiel comme idée.
Il y a quand même un certain nombre de choses. Par delà les cultures, il y a un certain nombre de tabous. Par exemple, la pédophilie ou je ne sais pas, genre de choses. Bon, sait-on jamais, hein, c'est peut-être acceptable à la limite, hein, j'en sais rien.
Ah oui, mais ça c'est sûr, la pédophilie, là, vraiment, je n'arrive pas à dire bravo. Hein. Mais alors oui, on fait la loi. Ça c'est la loi. Nous votons une loi. Nous votons qu'il y a des lois. Et ça c'est une loi à obéir ou à payer les conséquences. Oui. Mais ça, c'est pas une question de péché. Pas péché. Qui d'ailleurs, c'est prétentieux de dire péché. Ça, c'est un péché. Eh ben non. C'est un être humain qui est pédophile. C'est aussi un homme comme toi et moi. Et comme toi et moi. Et si lui, il a fait ça, nous, on le fait. Aussi. Alors, de dire péché, mais regardez soi-même avant de dire péché. Hein, et pensez d'où ça vient. Ça vient de quoi? Ça vient d'une fabrication personnelle. Et une fabrication personnelle vient de quoi? La pensée. Ah, ça c'est un péché. Ça c'est, qu'est-ce que c'est l'opposé de péché? Quelque chose de saint, holy. Ça aussi c'est des idées qui viennent de Francaire. De questions après tu vas le fâcher avec moi, que j'ai pris tout le temps.
Oh, non, pas du tout. Non, j'étais ravi de t'entendre. Je trouvais ça très, très éclairant.
Sur le social, Renan, sur le social.
Moi, je trouve que Philippe a placé les choses au plus haut niveau. Il avait parlé du pic de la montagne. Alors, je ne sais pas, j'espère que les auditeurs capteront cet enseignement, ce message. Et maintenant, si on veut revenir, on va être obligé de vraiment redescendre, on va être obligé de sortir des platitudes. Je pense que vraiment, tout a été dit là-dessus. Alors maintenant, si on veut, on peut essayer de parler plus en détail de petites choses, mais on va retomber.
J'aimais bien ce que tu disais sur le social et qui m'a fait réfléchir. C'est un sujet que j'en parle pas, mais je ne suis pas en dehors. Mais j'ai jamais pensé que j'étais en dehors ou dedans.
En fait, c'est très concret. Par exemple, très concrètement, Dandy, qui est une ville de tradition plutôt à gauche, nous avons depuis peu un maire de droite. Je suis immergé dans un milieu de gauche alternatif, libertaire, anarchiste, etc. Il se trouve que je n'ai pas d'opinion et que je le trouve même plutôt sympathique, ce maire. Alors, tout le monde dit du mal de lui dans les milieux. Voilà. Et alors, bah, moi, ça me pose problème, parce que je me dis, est-ce que, justement, dois-je avoir...
Suis-je un traître?
Suis-je un traître? Suis-je corrompu? Suis-je un suppôt du capitalisme?
Ouais, c'est pas nécessaire de lui de dire du mal de lui, ça. Quand on est de gauche, lui, de droite. S'il est sympathique. Si tu penses que c'est quelqu'un avec qui tu peux boire une bière et avoir une conversation autre, alors, il faut prendre ça en considération. Et puis, vis-à-vis des personnes de gauche qui voient ça, c'est leur problème.
C'est vrai qu'il manque un peu d'ouverture, peut-être.
Peut-être tu peux les faire voir que la droite et la gauche, hein, c'est un peu léger, la droite et la gauche.
Bien sûr que c'est, pour tout ça, ce sont des ismes, hein, capitalisme, socialisme, communisme, ismisme, sont tous un petit peu...
Ouais. Tu vois, pour l'histoire du Vipassana et du Zen, j'aime bien entendre parler de ça, parce que tu as un côté dans le Zen, qui est un des côtés que moi je trouve pas très sympathique dans le Zen, c'est la tendance à polémiquer et à attaquer l'autre. Ça existe depuis très 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 longtemps. Et moi, j'aime pas trop ça. C'est pas mon tempérament. Et par rapport au Vipassana, je comprends totalement le point de vue fondamental qu'expliquait Philippe tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a le sommet de la montagne, le pic, et c'est pas du tout de l'outrecuidance de dire ça. Et puis il y a des gens qui restent toujours dans une petite dimension étriquée et qui essayent de cheminer comme ça. De ce côté-là, le Vipassana ne m'intéresse pas. Je pense que le Zen est beaucoup plus vaste, beaucoup plus libre. Mais d'un autre côté, quand tout à l'heure tu décrivais la méditation, quand tu décrivais cette observation neutre des sensations, des idées, c'est très très proche du Zen. Moi, quand j'entends ça, pour moi, c'est très très proche du Zen. Même pour moi, si tu veux, toi tu disais équanime, mais moi je vais encore plus loin, je dis inconscient. C'est l'observation inconsciente, pour moi, c'est vraiment la définition même du Zen. C'est-à-dire que ce n'est plus, comme le disait Philippe tout à l'heure, avec nos catégories personnelles, nos idées, nos pulsions, qu'on agit, qu'on voit le monde, c'est avec le corps. Mais avec le corps, le vrai corps de l'homme véritable, il disait le corps. Donc, si tu veux, c'est une observation inconsciente. Dishimaru disait, tu vois à 360 degrés, tu vois l'univers entier. Mais c'est inconscient, tu ne juges pas et tu ne choisis pas. Tu ne mets pas le mental à la barre de ta vie. C'est pas le mental, et c'est pas les choix qui conduisent ta vie. Et ça, c'est tout de suite, c'est le. À ce moment-là, tu ne peux pas aller plus loin, puisque tu t'en remets totalement à la dimension dharmique. Toi, tu n'interviens plus. Tu laisses faire ce qui est. Donc, si ça, c'est pas le sommet de la montagne, qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus? Et à partir du moment où tu fais ça, tout le reste s'organise. Quand tu bois du whisky, tu enseignes en même temps. Tu bois pas du whisky comme un malade compulsif. Tu bois du whisky parce que tu es avec des gens qui boivent du whisky et que c'est le moment de boire du whisky et que tu te comportes comme un bodhisattva en buvant du whisky. Mais oui.
Eh oui, Vipassana ne dit pas ça.
La plupart des gens qui pratiquent Vipassana sont des gens qui ont eu un problème à gérer, de mental échevelé et incontrôlable. Et donc, ils ont aussi un vécu. Il faut pas imaginer les Vipassaniens non plus comme une tribu hyper austère. Non, les Vipassaniens ont fumé des pétards, ont un problème avec l'alcool et ils ont aussi cherché une solution. Mais c'est vrai qu'effectivement, on peut dire que l'accent est mis quand même sur la moralité base de tout. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'histoire de la posture qui chasse l'imposture. Mais quel est le rôle du corps, là, justement, dans le zen? On laisse circuler le mental et on s'accroche pas aux idées. Qu'en est-il du corps alors?
Quand on ne s'accroche pas aux idées, qu'est-ce que c'est le corps? Ça dépend de quel corps duquel tu
Ah,
parles.
ben le tien, celui que tu sens
Ok,
là.
celui-là, aucunement important, contrairement à ce que vous dites. Hein? On dit dans le Zen, Jin Datsu Raku, Deshimaru disait, en traduisant, jeter en bas corps et esprit. Ou esprit et corps. Jetez en bas, débarrassez-vous vos problèmes personnels, le problème dans le dos, et alors, dans les genoux, et alors, jetez en bas. Si tu ne jettes pas, si tu ne débarrasses pas de mon corps, tu deviens, et c'est ça que je vis dans le Sangha qui me suit, petit à petit, tu as des positions qui se manifestent, qui sont plutôt la pratique pour une thérapie de l'esprit, une thérapie du corps. Et c'est pas ça. Nous, c'est le corps éternel qui est là avant notre petite naissance, avant notre petit corps, et qui sera là après notre petit corps. Et il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, et ça, c'est une des choses qu'on réalise en se débarrassant de son corps comme de son esprit.
Dogen disait, mon corps véritable est l'univers entier.
J'ai pas envie de comparer, mais c'est vrai qu'on arrive au même point. C'est-à-dire que
Bien
le
sûr.
corps se dissout, les sensations deviennent de plus en plus fluides. Et c'est un piège aussi, puisqu'on s'attache au corps. Et donc, on n'est pas là pour s'attacher au corps. Mais ceci dit, on est quand même avec ce véhicule terrestre. On ne peut pas faire abstraction de la douleur. J'ai peur que ça soit une vue de l'esprit, quand même. C'est pas très concret. Je veux dire, ok, je débarrasse de mon corps, mais si j'ai vraiment très mal pendant mon zazen, qu'est-ce que je fais? Je l'ignore? Ou alors ça revient? Je suis là. Qu'est-ce que j'en fais?
Si tu as des grandes douleurs, tu as, eh bien, ah ben alors, la voie est basée sur les grandes douleurs et les grandes difficultés, disons. Hein. Ok, tu as une grande douleur, tu te mets, par exemple, dans les genoux, tu te mets sur une chaise. Avec les autres, hein, pas tout seul. Avec les autres, tu te mets, tu demandes à le responsable, je peux me mettre sur une chaise. Il y a d'autres choses aussi. Si vous êtes vraiment foutu, mais alors dans une souffrance terrible, vous arrangez avec le responsable pour être allongé. Tout est possible au moment que tu fais ton mieux. Et le corps ne devait jamais être un obstacle. Mais chapeau pour les pauvres qui souffrent comme des chiens. Je sais, on a tous eu des problèmes et on n'y revient pas comme on a mal. Mais c'est un autre corps qui nous intéresse. Puis là, oui, on garde bien son corps en bonne condition. On garde bien avec la vie quotidienne, une posture normale. Et ça aide le corps. Et pourquoi aider le corps ? Pour la pratique de méditation de Zazen. Oui. Pas pour soi-même.
D'accord, donc la conscience du corps ne fait pas partie de Zazen. On ne focalise pas son attention sur son corps. Voilà, c'est ça que...
Il y a quand même des grades chez nous, si on peut dire, des étapes aussi. Quand tu débutes, oui, sois conscient de ton corps et des problèmes dans ton corps, oui, bien sûr. Mais après des années, on se fatigue de son corps, de ses problèmes, parce qu'ils sont toujours les mêmes. Même si c'est le dos, même si tout d'un coup c'est plus le dos, c'est les genoux, c'est toujours la même chose. Et c'est très monotone. Et c'est du blabla qu'on a avec soi-même. Ça, c'est peut-être plus tard. Alors, il y a des étapes dans le sens que tu arrives, tu es nouveau, tu penses qu'à toi. Et oui. Mais après, tu en fous de toi. Tu ne peux pas pratiquer sans but pour longtemps si tu n'arrives pas à s'en foutre un peu de soi-même et ses problèmes personnels. Mais on peut déchirer, même un maître peut déchirer par ça. Mais eh ben, il est qui il est, mais il sait, et ça passe plus vite que quelqu'un qui ne sait pas, qui est en train d'être déchiré.
C'est un point important, ça me touche tellement ce sujet. Dans Zen, on vit toutes les choses au premier degré. C'est-à-dire que quand il y a la souffrance, il y a la souffrance. Mais ce qu'on essaye d'éviter, c'est tout le processus mental qui s'enclenche là-dessus. Obaku disait « trancher la tête au-dessus de la tête ». C'est-à-dire, c'est quand tu commences à gamberger sur la souffrance, à en faire un problème, quand tu la laisses au premier degré, c'est pas du tout l'anesthésie, le Zen. Pas du tout, du tout, c'est pas du tout... Je me rappelle une expérience que le professeur Ikemi, un copain de Sensei, là, qui faisait des observations sur les mouvements de l'esprit pendant Zazen. Et il mettait des vieux moines avec des débutants. C'est lui qui me l'a raconté. Hein. Et il enregistrait les ondes cérébrales et il faisait des machins. Il faisait passer une fille à poil. Il jetait un serpent sur les genoux. Et il voyait comment ce que ça faisait sur les ondes. Et il disait, les vieux moines, ils ont une réaction très forte qui redescend tout de suite. Les débutants, ils ont une relaxation moyenne, des ondes moyennes, qui durent des minutes et des minutes.
Tu vois, parce qu'ils commencent à réfléchir.
Parce que ils font un problème.
Oui, réfléchir.
Parce que si tu le vis au premier degré, je souffre, je ne souffre pas, je ne souffre pas. C'est l'attachement, la croyance, l'identification aux sensations et aux pensées qui nous détournent de la voie, qui nous détournent de la condition normale.
Tout à fait, c'est pas ça, la même chose. On n'est pas là pour s'identifier aux sensations, on est là pour les observer. Et choiceless observation aussi. Sans choix, une observation sans choix. Là j'ai mal, là j'ai pas mal, c'est agréable.
L'observation inconsciente, ça pour moi je pense que c'est vraiment... Oui. C'est Deshimaru qui m'a balancé ça un jour, l'observation inconsciente. Et j'ai eu vraiment du mal, et puis maintenant je comprends complètement ce que ça veut dire. Pour moi c'est vraiment une référence, l'image du miroir, qui observe tout et qui ne retient rien, qui ne s'attache à rien. Quand c'est là, c'est là. Quand c'est parti, c'est plus là.
Le miroir, c'est une bonne image. Ouais. C'est un peu ça que je disais. Servait de cette image-là. Mais ça ne change pas le fait qu'on n'est pas différent des autres. La personne qui est, comme je décris, l'homme sage, il n'est pas différent des autres. C'est celui qui imite l'homme sage qui est très différent. Mais l'homme sage, c'est pour ça quand on les voit, ils sont comme n'importe qui. Ils n'ont pas de position hiérarchique généralement dans l'église, et ils n'ont pas de la clergé, et on ne voit même pas un moine zen, un vrai moine zen, je ne parle pas de personne en particulier, il est dans la rue, on ne voit aucune différence qu'avec un autre, mais il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Il n'y a aucune différence. On ne voit même pas. Ah, mais il y a une grande différence. Et certainement pour le Vipassana, c'est pareil. Parce que le Vipassana, certainement, comme nous, on est dans la voie. On essaie d'être toujours dans la voie. Dans la rue, si on fume un pétard ou machin, on est conscient. Qu'est-ce que l'effet d'un pétard ?
Oui.
On sait que on fait blabla et on commence
à planer.
À planer et emmerder le monde entier. Alors, on se tient bien. Mais grâce à la voix qu'on pratique tous, surtout ceux qui ont eu un enseignement comme toi, comme moi, comme toi.
Quand tu es un homme de la voix, c'est Deschimaro qui disait ça. Quand tu es vraiment un homme de la voix, même tes erreurs deviennent des bienfaits. Parce que tout est mis dans cette direction-là.
Oui, les erreurs, l'erreur, le maître qui fait des erreurs. Quel enseignement. Quel enseignement pour soi-même. J'ai vu ça avec Deschimaro. Oui. Je le suivais pendant 10 ans, à la poche. Et on s'entendait très bien depuis le départ. On avait la même chose, juste naturellement, automatiquement. J'ai eu beaucoup de chance. Mais quand il fait ses erreurs, et je ne vais même pas les dire, ça va sur la radio, mais ses erreurs n'étaient jamais sur le niveau de sa vision, pour revenir à ça. La vision de le Sangha qui voulait créer ici et qui a créé, qui l'a laissé. Je ne sais pas, des fois il buvait trop par exemple. Mais quelle leçon, quelle éducation. Je vois que, moi je vois ça et je vois que je suis libre. Je suis libre. Et lui, ne parlons pas, je ne peux pas entrer dans sa tête. Je ne le regarde pas, Deschimaro. Avec un jugement positif. C'est comme, et une autre chose, tu vois un maître qui fait une erreur, tu te dis, quel enseignement. Mais même les maîtres font des erreurs. Alors moi, ça va. Si le maître fait des erreurs, quelle éducation. Au lieu de montrer qu'un côté de maître parfait, pur, mon œil.
Ouais, tu disais tout à l'heure, le sage et l'homme ordinaire, il n'y a pas de différence, c'est pareil. Et tu disais en même temps, mais il y a une différence énorme. Et si tu veux, moi, la différence, il faut la formuler d'une façon, on pourrait la formuler de différentes façons. Moi, je dirais que le maître, l'homme véritable, l'homme sans affaires, comme disait Rinzai, c'est un homme qui n'a rien à prouver et rien à cacher. Mmh. Il est complètement naturel. Mmh. Et Deschimaro, il était vraiment comme ça, il cachait rien. Il cachait rien du tout. Il montrait tout. Et en même temps, il montrait l'homme véritable, l'homme sans attache, l'homme universel. Et justement, voir les deux, effectivement, comme il dit, c'était vachement rassurant. Même le maître peut se tromper. T'as le droit de te tromper, sinon si t'as pas le droit de te tromper, quelle horreur, dis donc.
Oui,
c'est... En plus, qu'est-ce que ça peut foutre si tu te trompes ?
C'est une question intéressante. Le maître qui... Par exemple, le maître qui baise ses disciples. C'est pas bon, ça, n'est-ce pas ?
Ben non.
Ouais, ben non, ben non, c'est non, pas bon. Pas, c'est pas bon.
C'est pas bon du tout. Pas, même.
Bon.
Chez nous non plus d'ailleurs.
Dans l'histoire du bouddhisme américain, c'est intéressant quand on pense à quelqu'un comme Trungpa, le Tibétain, le grand maître est absolument un homme génial, et profond, très profond. Il baisait ses disciples et il l'a fait comme Luc vient de dire, c'est-à-dire rien de caché. C'est ça ce que tu as dit, rien de caché. Qui a fait que, eh bien, on n'aime pas quand on voit le maître partir avec ta femme pour baiser. C'est absolument inacceptable. Mais c'est aussi la femme qui a décidé. C'est le mari qui regarde ça. Ils sont tous un ensemble, mais rien n'est caché. Résultat, on a accepté cet homme comment il était. Un homme sage. C'est pas en question, il a un défaut, alors il n'est pas vraiment sage. C'est un homme sage. Tu prends Baker Roshi. Le grand qui dirigeait tout en Californie, le Zen Soto, lui, il a baisé la femme d'un autre. Et le grand maître là-bas, après la mort de Suzuki Roshi, Baker, il baisse et il est chopé. Il n'a rien dit, il cachait, il montait. Mais on l'a chopé un jour parce qu'on a vu les chaussures d'une femme devant sa porte. Et puis bon, et lui, il était, grosso modo, viré. Il n'a plus rien aux États-Unis, maintenant pas grand-chose. Et on a parlé beaucoup dans la presse américaine de lui, surtout dans la presse, dans des revues spirituelles. Mais voilà, il cachait et il a reçu la baffe la plus gigantesque que tu peux recevoir.
Être ce qu'on est sans avoir peur de l'être et sans avoir peur du regard d'autrui, puisqu'on est.
C'est ça.
On est.
C'est ça. Et comme ça, on ne critique pas le maître. Voilà, c'est au-delà de ça, on ne juge pas le maître. On critique, bien oui, on critique. Mais je n'accepte pas que ce qu'il fait ne trompe pas, mais il le fait.
Écoutons maintenant Taizen Dashimaru et ses disciples entonner un poème de Dogen qui s'appelle Shan So.
Inne no iro tanin no hibiki mo minanagara wagashaka muni no Oito sugata to tsukusa no iwo ni tatte mo ite mo inoru koto Leoni saki ni isto watasan.
L'hindouisme Advaita, manière Ramana Maharshi, quand ils parlent de Atman, c'est en fait, grosso modo, c'est quelque chose qui bouge pas. Ils ont un terme qui est magnifique de ce point de vue-là, c'est Vilamba. À chaque fois que je pose la question, qui suis-je ? Y aurait-il encore quelqu'un qui répondrait « Oui, je suis Louis, je suis français, je suis pas beau, je suis fâché, je suis méchant, je suis en colère ». C'est encore du pipeau, c'est encore un mensonge. Et donc je reprends la question à Boutouin « Mais qui es-tu, toi ?» Et toi, tout le temps, tu te poses la question. Et en fait, ils ont un terme qui s'appelle « Vilamba ». Vilamba, c'est l'interstice, l'espace entre deux idées. Mmh. Donc au lieu de cultiver les idées, je cultive le blanc entre les idées et je m'installe dedans et je pousse les idées. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit encore « moi », c'est « moi », tu finis par les connaître. J'ai un certain nombre de petits loués là-dedans et toi aussi, tu te finis par te connaître depuis le temps que tu te fréquentes. Ouais. Et donc tu le repousses et tu t'installes dans le blanc alors que tu l'appelles Atman, tu l'appelles Brahman, tu l'appelles je ne sais quoi, on s'en fout en fait. Ouais. Tu t'installes dans le silence et alors là, bah voilà, on rejoint la particularité de l'hindouisme, c'est de cette branche, parce qu'il y a des milliards d'hindouismes, c'est que, d'après ce qu'ils disent, et ça c'est leur fond de commerce, je ne juge pas, c'est la seule question qui prend le mental à rebrousse-poil. C'est-à-dire que le mental, on peut imaginer ça comme un bruit de corridor, ça passe, je pense, et moi je fais le cric. Donc c'est comme un bruit de corridor, il s'agit de connaître d'où ça sort, d'où ça vient, il y a comme un projectionniste fou là-dedans qui crée le monde que j'ai en face de moi, j'en suis entièrement responsable de ce qui m'arrive. Je suis responsable, c'est moi qui crée mon monde. Et donc si je le débusque, si je finis par les identifier pour m'en désidentifier, je ne m'identifie surtout pas ni à moi, ni à mon corps, ni à mon esprit, et je me libère de tout, et je m'installe dans Vilamba, dans l'interstice, après, qu'on appelle Atman ou je ne sais quoi, c'est secondaire.
Ok, c'est exactement, mot pour mot, notre enseignement, ce que tu viens de dire. Qui suis-je ? Et on réalise qu'on est le vide qui comprend toute chose.
Tout à fait.
Et c'est la même chose. Et je trouve que, contrairement à toi, que quand on parle de la différence entre Vipassana et Zen, je trouve ça intéressant pour le public qui s'intéresse. Et il y a des personnes qui s'intéressent, pas dans le spirituel, nous on parle spirituel, que ce soit Vipassana ou Zen. S'ils ne s'intéressent pas, ils ne s'intéressent pas. Et puis voilà. Mais d'autres qui s'intéressent pourront dire, ah c'est ça, d'après eux, le vipassana. Ah, c'est ça, d'après eux, le zen. Intéressant. Conclusion, il n'y a pas de différence. C'est intéressant aussi. Alors, tu vois, moi je pense que des fois, les comparaisons n'est pas forcément lieux à les gens extérieurs.
Justement, à un moment tu en parles dans ton bouquin, ce n'est pas recommandé d'essayer un certain nombre de pratiques, tu finis par péter un boulon. Tu dis, les gens qui sont en surdose spirituelle, qui cherchent, ils se mélangent les pinceaux. Ceci dit, bon, avant de m'attarder sur un mix entre vipassana et hindouisme advaita, j'ai effectivement sous-mariné, j'ai pénétré, une quinzaine, vingtaine de sectes différentes, j'ai étudié la question. Et il y a un truc qui revient souvent, c'est que tous, et j'en parlais de cette fameuse phrase de Nichiren Daishonin, de la Soka Gakkai, Nichiren Daishonin qui a dit « Si je dis que je suis le plus grand sage du monde, on va me traiter de vantard, mais si je ne le dis pas, je vais dévaluer la puissance de la loi. » Alors, je ne parle pas de la validité ou non de la Soka Gakkai, ça, je ne veux pas m'engager sur ce terrain glissant, mais en tout cas, c'est vrai que tous les maîtres que j'ai approchés, ils disent tous la même chose. Et ça m'emmerde à chaque fois qu'ils sont au sommet de la montagne, qu'ils ont raison, et que voilà.
Et ça, ils disent tout ça. Louis, je sais maintenant pourquoi tu as tiré l'œil. C'est ça l'expression, Mais il faut aussi dire que, l'autre côté de ce que tu viens de dire, si le maître ne pense pas que son école est le meilleur, et que son enseignement, ou celui-là qu'il a reçu, qu'il transmet, est le meilleur de toutes les autres, il ne devrait pas le mettre.
Oui, mais est-ce que la foi peut inclure le doute ?
Parce
qu'il parle de foi non sans objet dans le zen. Est-ce que la foi peut inclure, ou ne serait-ce que l'humilité, puisque quand même c'est important d'être humble. On n'est pas...
La foi ne se remplit pas comme ça. La foi, c'est le cosmos, la foi dans le cosmos, dans ce que nous vivons de moment en moment, qui est aussi l'universel et l'individuel au même moment. Et c'est cette foi là-dedans, la foi dans l'universel. Comment douter ça ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'endroit pour douter, là ?
C'est vrai, la foi, c'est un point capital. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avancer d'un centimètre. Mais ce n'est pas la foi dans quelque chose.
Dans un système.
Ou dans des dogmes, ça n'a rien à voir. Chimaru, il disait, c'est une formule, on pourrait essayer d'en trouver d'autres, il disait, c'est croire en son propre esprit. On pourrait dire, c'est croire en sa nature divine, c'est croire en la perfection ultime de l'univers, croire en la puissance de la vie, avec son corps, pas avec son esprit, et s'investir complètement là-dedans, y mettre toute sa conviction. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de pratique de la voie.
Talon, la pratique très difficile, moi j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui disent en ce moment qu'ils perdent la foi et qu'ils ont plus la foi. Parce qu'ils regardent à l'extérieur tout le temps et ils perdent la foi avec moi. Ah, apparemment. Mais c'est stupide, moi, c'est quoi ? C'est la question qui suis-je encore, hein ? C'est une perte de temps de perdre la foi. Mais ils le perdent. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 15 ans ? Et c'est des gens que j'ai redonnés moines et ils sont vraiment. Des piliers, c'était des types forts et proches et tout. Et maintenant, ils commencent à se mettre tout en question. Manque de foi, apparemment. Alors, je suis étonné que ça les a pris tellement d'années pour peut-être penser à partir. Ils auraient dû partir plus tôt.
Je ne sais pas si c'est très important dans le zen, mais en tout cas, dans les filières hindoues, la dévotion dans le gourou est essentielle.
Dans le zen, non.
Moins, c'est non. Pas des chimarus
oui.
À ce point-là, quand même.
Non.
C'est
non,
pas
non.
Un dieu vivant, non, quoi, surtout
non.
Pas.
Oh, pas du tout. Et pas du et tout. Il n'était jamais un dieu vivant.
Le culte de la personnalité, pour nous, la personnalité, c'est trois fois rien. C'est donc ce dont on doit se débarrasser. L'homme qui est en haut de la montagne, l'homme qui a une foi absolue dans son enseignement, il ne compte pas sur ses forces personnelles, c'est pas sa petite personnalité qui l'intéresse. Deshimaru, il ne s'intéressait pas du tout à sa personnalité, il ne la cachait pas. Il la montrait,
c'est ça,
parce qu'il jugeait qu'elle n'avait aucune importance.
Qui a fait
et si on se regarde bien, on est tous des trous du cul, tu m'excuses, tu vois. Il n'y a pas un trou du cul plus haut que l'autre, on est tous à la même enseigne, on est tous les mêmes, comme il disait tout à l'heure. On est tous pareils, on est fait des mêmes, de la même matière, des mêmes motivations, des mêmes erreurs, des mêmes aspirations, on est exactement pareils. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pas de l'ego, quoi. S'il y a de l'ego, ça vaut pas un clou, le mec qui dit je suis le meilleur et qui y croit, tu vois. Alors là, c'est vraiment un connard.
Très bien, on va peut-être conclure. C'est intéressant tout cela. Je vais essayer de faire une petite conclusion intelligente. Mais je vous remercie Philippe et Luc d'avoir participé à cette causerie sans queue ni tête. On a parlé de choses et d'autres. Pour les gens qui s'intéressent, bravo d'avoir suivi cette émission qui va être quand même assez longue. Merci.
Ben moi, je veux te remercier aussi de nous avoir donné cette occasion. Et puis surtout d'avoir amené Philippe à dire des choses aussi, pour moi, aussi importantes et aussi vitales. Et donc merci à Louis et merci à Radio Diwa.
Oui, je vous remercie aussi beaucoup. Je suis très content de parler avec quelqu'un sur la radio qui est un pratiquant de très longue date.
Un homme de foi.
Oui, un homme de foi, un homme de pratique. Mais ça, c'est très rare, ça. Alors, normalement, moi, j'ai des questions complètement superflues. Et surface. Et c'est tout le temps les mêmes clichés qui sortent, et c'est toujours les mêmes genres de questions, et à la fin, on ne sait même plus comment répondre à les questions de tous les jours. Bêtes, les questions ordinaires. Comment on répond à une question ordinaire ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on est ? On reste ordinaire.
Pourtant, le maître ne connaît pas de matériaux improductifs. Toutes les questions sont intéressantes. Il n'y a pas de
par exemple, quand est-ce qu'on boit un coup ?
Allez, merci à tous les deux.
Oui, merci.
Au revoir. Oui.